BFM Business, la France a tout pour réussir. Jérôme Tichit.
Bonjour et bienvenue dans La France a tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, et même en plein cœur de l'été, eh bien, c'est un concentré d'économie positive vu et entendu sur BFM Business. Alors, au sommaire ce week-end, eh bien, de la licorne à foison. Depuis quelques mois, le nombre d'entreprises dont la valorisation est désormais supérieure à 1 milliard de dollars, eh bien, ce nombre a explosé en France. On approche déjà les 20 licornes. Nous parlerons donc successivement de Vestiaire Collective, Alan, Ledger, Shift Technology ou encore Aircall. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, eh bien nous parlerons d'autres start-up, celles qui ont été sélectionnées pour faire partie du Next 40 que l'on considère souvent comme l'antichambre des licornes. Nous parlerons successivement de Cybele Angel, Klaxoon, Brut, Conto, Insect, Open Classroom ou encore Exotech. 25 licornes en 2025, c'est l'objectif fixé par Emmanuel Macron il y a presque deux ans, en septembre 2019. Alors sans prendre de risque, on peut considérer que l'objectif sera bel et bien atteint, puisqu'en cet été 2021, on frôle déjà les 20 licornes en France. Et là, 11e au mois de mars, eh bien, c'était Vestiaire Collective, plateforme de vêtements et d'accessoires de mode d'occasion, plutôt dans le haut de gamme. Une plateforme créée il y a 11 ans déjà, qui revendique 11 millions de membres dans le monde et qui a donc levé, il y a 5 mois, 178 millions d'euros. Auprès notamment du groupe Kering. Kering qui, à l'occasion, a pris 5% du capital de l'entreprise. Fanny Moisan, qui est la présidente et cofondatrice du site, était l'invitée de BFM Business pour parler de cette nouvelle et très importante étape pour Vestiaire Collective. Alors, tendez bien l'oreille, car à l'époque, elle était en duplex et en visio de Hong Kong.
Ça apporte une crédibilité incroyable à Vestiaire Collective, qui a juste 11 ans et qui devient un acteur vraiment à la table de cette industrie. Et enfin, Kering et Vestiaire, c'est quoi? C'est une vraie volonté d'innover. Et on a lancé il y a quelques semaines un premier partenariat ensemble avec la marque Alexander McQueen, où en fait, on vient proposer aux clients de la marque Alexander McQueen de vider leur placard et de vendre finalement les pièces McQueen qu'elles n'utilisaient pas récemment, et du coup de leur donner une vie, une seconde vie.
Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? À quoi ça va vous servir, cette levée de fonds?
On veut arrêter cette économie linéaire et se battre contre notamment la fast fashion où finalement on va utiliser les pièces quelquefois et les jeter. On pense que la durabilité c'est la clé de notre industrie. Donc ça c'est le premier axe où on va changer et transformer foncièrement et fondamentalement cette industrie. Et le deuxième pour nous c'est l'innovation technologique chez Vestiaire Collective, mais aussi aller recruter des talents. Et par exemple on a dans le plan 150 tech, donc des développeurs et des ingénieurs qui seront notamment essentiellement recrutés en France.
Et c'est beaucoup d'argent, hein, 178 millions d'euros, vous allez pouvoir faire beaucoup de choses, j'imagine aussi votre développement international. Vous êtes en direct de Hong Kong aujourd'hui, j'imagine c'est parce que vous prospectez déjà de nouveaux marchés ou vous allez développer votre présence en Asie, en Amérique du Nord. Vous en êtes où dans votre développement justement?
Effectivement, on est clairement leader en Europe. On a également une très très forte position aux US qui accélère fortement. Et plus récemment, arrivé en Asie, personnellement il y a 4 ans, où on développe les différents marchés. Aujourd'hui Hong Kong, Singapour, l'Australie, mais demain le Japon, la Corée, avec tout un tas de belles aventures qui nous attendent.
Dernière question quand même, parce que vous y êtes quand même à Kering, vous avez commencé par ce partenariat avec Alexander McQueen, vous n'avez pas peur que ça vous prive des partenariats avec Dior, Chanel, Hermès?
Pas du tout, la relation avec Kering elle n'est pas exclusive, ni de leur côté ni du nôtre, et au contraire, comme je vous le disais tout à l'heure, on est en train de lancer tout un tas de services pour l'industrie, et pourtant tout un tas d'autres marques qui travaillent déjà avec nous et avec qui on va lancer des beaux partenariats également. Donc je pense que l'industrie a vite compris que c'était pas du tout antagoniste, que Kering avait compris qu'il y avait une vraie valeur de partenariat, mais qui n'était pas encore une fois exclusive, ni pour eux ni pour nous.
Et un mois plus tard, au mois d'avril, 12e licorne française, c'est Alan qui réalisait une levée de fonds de 185 millions d'euros, après déjà 50 millions d'euros levés en 2020. Alors Alan, c'est une complémentaire santé proposée aux indépendants et aux salariés des petites et moyennes entreprises. La start-up au printemps revendiquait environ 9500 entreprises clientes et 155 000 personnes assurées. Jean-Charles Samuelian, qui est le président cofondateur d'Alan, était venu commenter ce nouveau statut de licorne au micro d'Edwige Chevrillon.
C'est toujours une belle étape pour l'équipe, mais ce qui compte pour nous, c'est vraiment à quel point on veut transformer le système de santé, à quel point on peut être là pour des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions de personnes. Et bien sûr, ce tour de financement, ces 185 millions d'euros, nous aide à accélérer, nous aide à recruter, nous aide à essayer d'atteindre 1 million de membres en Europe d'ici 3 ans. Donc oui, c'est excitant parce que ça nous donne le pouvoir de recruter 400 personnes, d'investir et de nous différencier. Aujourd'hui, on a 85% de nos remboursements qui sont en moins d'une heure. On couvre à la fois les indépendants et les entreprises. On a des entreprises de 0 salarié à plus de 5 000. Donc c'est vraiment tout type d'entreprise, tout secteur, toute industrie. Et en plus d'être une assurance santé simple, extrêmement rapide à rembourser, qui aussi avec un super rapport qualité-prix, que grâce à la technologie, on peut réduire les coûts dans le temps, on ajoute aussi énormément de services. Des services de prévention, par exemple, si vous n'êtes pas allé chez le dentiste depuis plus d'un an, on va vous dire où aller faire un check-up autour de chez vous si vous avez envie. Des services quasiment d'accompagnement, vous pouvez chatter avec des médecins, chatter avec des sages-femmes, chatter avec une équipe médicale qui vous permet de vous guider. On vous aide à trouver les bons médecins et savoir combien ils vont être remboursés avant. On a aussi beaucoup poussé sur les sujets de santé mentale. On était les premiers à rembourser les applications de méditation. On donne accès à...
Ça, c'est parce que vous êtes branchés, c'est pour ça, non ?
Oui, mais on pense que c'est important. Mais en effet, on est aussi un peu branchés. Et on a aussi mis une hotline psychologique dans l'app. Donc l'idée, vraiment, c'est d'être cette super app qui va de... J'ai besoin d'une information et j'ai pas envie de finir sur un moteur de recherche où je vais penser que je vais mourir dans 5 minutes, à... je gère mes soins et je suis remboursé, et le tout de manière unifiée et extraordinaire. Et ça, on le fait en France. On couvre 160 000 personnes. On le fait en Espagne et en Belgique, qu'on vient de lancer.
L'Allemagne, tiens, c'est pour quand ?
Pas pour 2021, mais on est en train de regarder quel pays nouveau pays on lancera en 2022. Ouais. Parce que si on continue cette tendance, on va lancer un ou deux nouveaux pays entre 2022 et 2023.
On continue la chronologie des licornes du printemps. Nous voici donc au mois de mai avec la 13e du nom, et c'est Shift Technology. Il s'agit d'une start-up créée en 2014 et qui a déjà séduit de très nombreux assureurs en France, en Asie et aux États-Unis. Shift Technology, donc début mai, a levé 220 millions de dollars, ce qui va permettre à l'entreprise de poursuivre son développement. On est là au cœur des applications de plus en plus nombreuses de l'intelligence artificielle, cette fois-ci au service du secteur de l'assurance. On va donc réécouter Jérémy Jawisch, le président et cofondateur de Shift Technology, invité le 6 mai dernier de Good Morning Business.
Quand les personnes ont un sinistre, une fuite, une rayure sur un véhicule, le premier stress que les gens ont, c'est avant la réparation, c'est est-ce que mon assureur va couvrir ? Et est-ce que la déclaration et le processus de déclaration va être compliqué et laborieux ou non ? Et donc chez Shift Technology, ce qu'on fait, c'est qu'on développe des solutions d'intelligence artificielle pour aider les assureurs à rendre ça beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, et aussi pour aider les assurés, les personnes, à être guidés dans ce processus.
Mais alors concrètement, qu'est-ce que ça va chercher pour aider les assureurs, votre solution ?
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider les assureurs à capter un maximum d'informations de l'assuré.
Par exemple, des photos ?
Par exemple, des photos, par exemple, un descriptif, qu'est-ce qui s'est passé, par exemple, un devis, une facture. On va aussi regarder sur Internet des données externes, les données météo, par exemple, pour savoir est-ce que...
Ça correspond, est-ce que...
Exactement, oui, ça correspond. Est-ce que... parfois de la prévention, donc quand on a une tempête, savoir quels sont les assureurs qui vont avoir besoin d'aide pour pouvoir mettre les centres de déclaration d'accidents ou de dommages aux beaux endroits. Et donc, ça va optimiser tout pour qu'aujourd'hui, il y a des milliers de gens dont le travail, c'est de vraiment aider les assurés à gérer ces situations et donc automatiser un maximum de choses pour qu'ils puissent être là pour leurs assurés.
Alors, donc, vous travaillez avec tous les assureurs et dans quelle partie du monde ?
Alors, on ne travaille pas avec tous, mais une grande partie. On a notre plus gros centre, c'est la France. C'est là où on a commencé. D'ailleurs, les assureurs français ont été les premiers à l'échelle internationale à nous faire confiance. Et donc, les pays où on s'est beaucoup développé, à Singapour, on a un gros centre à Singapour, Hong Kong, Japon, et ça fait 2 ans qu'on a attaqué les États-Unis.
Et donc, vous levez 220 millions d'euros, c'est pas rien. Hein. D'abord, bravo, parce que ça vous transforme en licorne. Quand même, c'est important. Il y en a 13 aujourd'hui en France. Qu'allez vous faire des 220 millions d'euros, là ?
Alors, petite précision, c'est en dollars. Parce que les taux changent en permanence.
Ben, ça fait un peu moins de 200 millions d'euros.
On a décidé de communiquer sur notre valorisation pour envoyer un message en disant le système tech français peut créer des gros acteurs qui sont concentrés sur un secteur.
J'imagine que vous allez recruter à tour de bras. Vous avez déjà 350 employés. Vous cherchez quoi, des data scientists ?
Alors, une grosse partie de l'investissement, l'ambition, c'est de créer en France le plus gros centre de data scientists de l'assurance dans le monde. Et donc, notre ambition, c'est d'embaucher plus de 300 data scientists concentrés sur l'assurance. Et leur seule mission va être d'aider les assureurs à mieux être là pour leurs clients.
Autre licorne française quelques semaines plus tard, c'est Ledger qui levait alors 380 millions de dollars. Avec Ledger, on est dans l'univers très tendance ces derniers mois des crypto-monnaies, ou plus précisément des portefeuilles physiques de crypto-monnaies. Pascal Gauthier, le président de Ledger, était l'invité du Grand Journal de l'Écho. Il annonçait à Edwige Chevrillon que le milliard de dollars de valorisation ne lui suffisait pas. Écoutez-le, il vise carrément beaucoup plus haut.
Notre objectif, c'est 100 milliards. Mais c'est une étape. Et ce qui nous intéresse, c'est le potentiel du marché est tellement énorme qu'on pense qu'on a de quoi faire la première boîte française à 100 milliards. Et pourquoi ? Parce que la transformation, en fait, de ce qui est en train de se passer avec le Bitcoin et ses technologies est telle que, en 2000, on disait le monde va devenir digital et on n'y croyait pas trop. En 2021, on est tous devenus des êtres digitaux. Ben, moi, je vous dis aujourd'hui que le monde va devenir un monde de... Le monde de la valeur va se transférer sur des blockchains dans le futur. Et quand on en reparlera en 2026, on verra qu'une grande partie de la valeur du monde aujourd'hui aura été transférée sur des blockchains. Et on ne parlera plus de Bitcoin qui vaut un trillion. On parlera de valeur sur des blockchains en centaines de trillions. Et donc, ça va être un marché colossal.
Pascal Gauthier, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai que c'est quelque chose qui se joue à l'aune de la planète. Donc, c'est mondial. Ouais. Comment un Frenchie, des Frenchies, ils arrivent à trouver leur place là-dedans ?
Oh, parce que vous savez, les Frenchies, en fait, à l'origine, on a les lumières, on est ambitieux et puis on veut faire des choses extraordinaires. Hein. Impossible n'est pas français. Donc, moi, j'ai toujours fait ma carrière, d'abord pour commencer dans les boîtes américaines et puis ensuite, une fois que j'ai compris comment les Américains faisaient pour monter des grandes sociétés, j'ai essayé d'appliquer les recettes tout simplement d'abord à Criteo et maintenant à Ledger. Mais en fait, la recette, elle est simple. Il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir de la résilience, parce que monter des grands business, c'est très difficile. Ouais. Ouais. Il faut avoir une exécution parfaite. Et chez Ledger, c'est ce qu'on essaye de faire. Et dans l'exécution parfaite, le plus important, c'est d'attirer les bons talents chez nous. Et chez Ledger, aujourd'hui, on est 360 personnes. On en embauche 300 de plus. Mais surtout, on fait venir de partout dans le monde, et notamment les États-Unis, beaucoup de talents chez nous en France. Et donc là, c'est quand même...
Oui, ça, c'est le cœur de la French Tech.
C'est original.
Ah oui, hein. Oui, ça, c'est original, comme vous dites. Oui.
Mais donc, il y a Yann Rogers qui a commencé avec nous il n'y a pas longtemps, qui arrive de chez LVMH. Et avec Yann, on est en train d'embaucher pas mal de ses copains qui nous rejoignent.
Les 380 millions d'euros, vous le disiez, c'est pour encore plus vous développer. Ça va, vous allez les épuiser en combien de temps ?
Le problème, c'est que Ledger, c'est une société très rentable. Donc, a priori, on les utilisera pas si vite que ça, puisque, en fait, on gagne de l'argent désormais tous les mois. Et d'ailleurs, Ledger a toujours été rentable. C'est vraiment pour accélérer, mais sans se mettre à risque. Parce que le problème, quand vous accélérez, quand vous embauchez beaucoup de personnes, c'est que, tout d'un coup, vous commencez à creuser votre trésorerie. Donc là, on a un trésor de guerre, et maintenant, on peut embaucher 300 personnes, on peut développer vraiment les technologies Ledger, on sait qu'on a les reins solides et qu'on peut le faire.
Merci. Et on veut rester indépendant, j'ai entendu. Pas tout de suite de
très indépendant.
Ça, on a bien
on est là
entendu
pour
ça tout à l'heure, non ?
Oui, 100 milliards, c'est notre objectif.
100 milliards indépendants, pas d'intro, avant 100 milliards.
Oh, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, 100 milliards indépendants et on veut faire la plus belle boîte possible.
Si on fait donc les comptes, on en est donc à 15 licornes. La 16e est apparue quelques semaines plus tard encore. C'est Aircall qui s'est retrouvé valorisé plus d'un milliard de dollars après sa quatrième levée de fonds d'un montant de 120 millions de dollars. Aircall, pour faire simple, propose des solutions de téléphonie qui s'intègrent au logiciel de ses entreprises clientes, ce qui permet de gérer les centres d'appel ou justement les relations clients. La start-up a été créée en 2014, elle reste française, mais vous allez le voir, elle a déjà plus qu'un pied à l'international. C'est aussi ça le succès des start-up française. Dans un instant, donc, on va écouter Jonathan Angeloff, le cofondateur d'Aircall. Mais tout d'abord, quelques infos sur la société avec Raphaël Couder.
La téléphonie d'entreprise n'est pas l'apanage des grands opérateurs télécoms. La preuve, depuis sa création en 2014, Aircall a réussi à s'implanter au sein d'une dizaine de milliers d'entreprises dans le monde. Sa plateforme qui associe la téléphonie aux logiciels professionnels, comme ceux dédiés à la relation client par exemple, séduit de plus en plus. L'entreprise frôle aujourd'hui les 100 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel grâce à sa solution vendue par abonnement. Un succès accéléré par la pandémie l'an dernier et le développement du travail à distance À cette allure, la start-up, dont le siège a été transféré aux États-Unis dès 2016, pourrait concrétiser plus rapidement que prévu sa volonté d'entrer au Nasdaq. En attendant, cette levée de fonds va lui permettre d'ouvrir de nouveaux bureaux à Berlin et à Londres, mais aussi de poursuivre l'amélioration de sa plateforme, notamment grâce au développement de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle.
On est content d'en arriver là. C'est pas rien après 7 ans d'être valorisé plus d'un milliard. Même nous, on ne l'espérait pas finalement au début, et ça arrive. Maintenant, la suite de l'aventure continue. En effet, vous le dites, on est allé très tôt aux États-Unis. 30% de notre chiffre d'affaires se fait aux États-Unis. Plus de 15% en France, donc 85% en dehors de la France. Donc on a cette approche très international, mais il y a tout encore à faire et on est très excités par cette annonce.
Oui, et vous avez été très porté par l'année 2020, alors que dans le même temps, vous avez été impacté.
C'est ça. En fait, nos clients, certains ont été très impactés. Oui. Évidemment, le travel, toute l'industrie un peu du voyage, ça a été assez difficile pour eux. Mais nous, de l'autre côté, on avait des clients qui avaient besoin du coup de se digitaliser. Et donc finalement, cette crise a poussé à marche forcée les PME et les ETI à se digitaliser rapidement. Et donc,
70% de croissance pour vous.
65% en 2020, et là on prévoit plus de 72% en 2021.
La prochaine étape, ça sera sans doute une introduction en bourse, non ? Ça paraît écrit, non ?
C'est un peu l'idée. C'est pour ça qu'on a fait rentrer Goldman Sachs au capital, ouais, qui est une banque internationale et qui a l'habitude de faire des IPO, notamment au Nasdaq, vous l'avez précisé. Donc, à première vue, on est parti pour comme prochaine étape, et je serais très fier de venir l'annoncer sur BFM, en tout cas de nous introduire en bourse. Tout ça pour continuer, évidemment, à développer notre produit, développer notre marque, attirer des talents, parce que c'est l'objectif, ouais, évidemment, d'une levée de fonds.
Voilà, Jonathan Anglove, le cofondateur d'Aircall, notre 16e licorne, bon, française encore quand même. Hein.
Mais bien sûr, bon, toujours française.
Et puis ensuite, au mois de juillet, il y a eu encore une 17e licorne, c'est United, dans le domaine du crédit à la consommation. À présent, dans cette deuxième partie de l'émission, eh bien, on va s'intéresser à ces entreprises qui seront peut-être bientôt des licornes. En tout cas, elles ont rejoint le club très fermé du Next 40, un club renouvelé chaque année par le gouvernement et qui abrite les startups à très fort potentiel, comme l'on dit. Cette année, la révélation du Next 40 a eu lieu sur notre antenne, c'était au mois de février. À cette occasion, Frédéric Simotel nous avait fait une synthèse de ces nouveautés 2021 du Next 40. Et juste après, eh bien, on va réécouter les réactions sur le plateau d'Edwige Chevrillon d'Erwan Kerodi, c'est le fondateur de Cyber Angel. Son entreprise de cybersécurité fait son entrée dans le classement. Réaction également de Mathieu Blecher, le dirigeant fondateur de Klaxoon. Klaxoon, elle, qui se maintient cette année dans le Next 40. Mais tout d'abord, donc, la synthèse signée Frédéric Simotel.
On va se cantonner sur le Next 40, c'est-à-dire les 40 entreprises avec 12 nouveaux élus. Et parmi eux, beaucoup d'entreprises, alors des startups industrielles, des startups aussi B2B. On est vraiment dans ce domaine. On est dans la fintech, on est dans la robotique avec Exotech, on est dans les nanosatellites avec Kineis. Donc on voit la messe des pas dites, hein, dans l'espace. On a nous aussi nos acteurs importants en devenir. Mais ce qu'il faut surtout voir derrière tout ça, c'est en plus de ce label French Tech, de ce label Next 40, c'est les emplois créés. Hein. On a toutes les 120 entreprises du French Tech 120 ont créé plus de 10 000 emplois en 2020. Et aujourd'hui, elles représentent un peu moins de 40 000 emplois, un chiffre d'affaires d'environ 9 milliards d'euros. Donc vraiment, on est dans ces entreprises en croissance. Et ce qu'il faut vraiment retenir ce soir du Next 40, c'est voilà, place au monde du B2B et place à des startups qui sont vraiment en train de passer à l'échelle. Mais c'est vrai que ce qui manque aujourd'hui à ces startups pour ce passage à l'échelle, c'est ce lien avec ces entreprises du CAC 40, avec ces grands comptes. Et là, aujourd'hui, on espère, voilà, avec ce label de toutes ces entreprises dans la fintech, dans les nanosatellites, qui puissent aller chercher ces grandes entreprises.
Justement, le lien entre petites entreprises et grandes entreprises, est-ce que ça existe, par exemple, ou avec l'État ? Parce qu'avec l'État, c'est un point très important, hein, encore une fois.
Pour Cyber Angel, qui fait de la cybersécurité, donc B2B Enterprise, donc c'est que des grands groupes. En tout, 2000 employés, aujourd'hui, on ne parle
pas. On connaît pas.
On leur parle pas.
D'accord. Okay.
Mais bon, mais pour le coup, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le pays, et ben, en fait, que ce soit en France ou notre deuxième pays qui a été l'Allemagne et notre troisième pays qui maintenant devient le premier, qui sont les États-Unis, vous savez quoi ? Ils s'en foutent qu'on soit une start-up. Mais alors, ils s'en balancent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on résolve un problème auquel ils n'ont pas de solution. Si on apporte de la valeur, eh ben, c'est parfait. Et ils sont, par contre, ils sont prêts à prendre le temps. Alors c'est vrai qu'il faut se mettre à leur diapason. On est très agile, on va vite, on n'a pas beaucoup de temps. Eux, ils ont des process. Ok, on va s'adapter. Mais à partir du moment où on est capable de prouver de la valeur, eh ben ils vont vous acheter.
Cette différence entre start-up et entreprise, il y a quand même un point important. Nous, ça nous a aidé, ce titre Next 40, cette entrée en Next 40. Ce qu'on fait, nous, c'est le travail collaboratif. On permet aux équipes de travailler différemment, de s'emparer de méthodes plus efficaces, d'éviter les réunions, etc., trop longues. On travaille avec les grands groupes et les petites entreprises et le secteur public. On a des millions d'utilisateurs dans 120 pays. On est 260 en France. Et le Next 40, qu'est-ce que ça nous apporte? Une reconnaissance que notre secteur, qui est quand même un secteur risqué, on est sur des idées, sur de l'invention, sur des concepts sur lesquels on va prendre des fois des chemins très osés, et ben c'est que ces chemins-là, ils peuvent être vecteurs de croissance.
Alors en quoi cette labellisation du Next 40 est-elle utile et qu'en attendent les lauréats de cette promotion 2021 ? Bien, c'est la question que François Sorel a posée à plusieurs d'entre eux dans Tech & Co. On va donc écouter successivement les témoignages des dirigeants de Conto, c'est la néobanque pour les petites entreprises et pour les indépendants. Témoignage également du patron d'Insect, l'élevage d'insectes. Open Classroom, les formations en ligne. Mais tout d'abord, témoignage de Guillaume Lacroix, c'est le fondateur du média en ligne Brut.
On est évidemment très heureux de faire partie du Next 40. On faisait partie du FT 120, donc on progresse. L'un des sujets qu'on a, nous, c'est que créer un média mondial au sens strict du terme, c'est-à-dire avec des histoires qui marchent partout dans le monde, à travers les réseaux sociaux. Personne ne l'a fait avant nous. Personne n'a grandi aussi rapidement à l'international. Donc on a besoin d'aide de gens qui ont ces capacités à scaler des nouveaux territoires et aussi des plateformes technologiques.
C'est évidemment une très belle reconnaissance pour tout le travail qu'on fait depuis maintenant 3 ans et demi avec l'équipe. J'en profite pour féliciter et remercier toute notre équipe. On a 300 personnes aujourd'hui dans l'équipe et tous nos clients, plus de 120 000, donc TPE, PME dans toute l'Europe, qui nous font confiance au quotidien.
Et alors, bon, ça y est, vous êtes dans ce Next 40. Qu'est-ce qui va changer à partir de demain et qu'est-ce qui ne va pas changer, Alexandre, à votre avis ?
Franchement, pas grand-chose va changer, si je peux me permettre. Oui. On reste vraiment focalisé sur nos clients. Et ça va peut-être nous aider aussi pour nous développer, faire des partenariats, etc. Mais le cœur, j'allais dire, le nerf de la guerre, c'est ce qu'on fait, entre guillemets, tous les jours, un peu loin des plateaux de télévision et qui marche bien depuis 3 ans et demi. Mais il faut qu'on reste très focalisé pour continuer.
Alors vous y étiez déjà l'année dernière. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette première année au Next 40?
Grâce au Next 40, on a pu aller au World Economic Forum de Davos, par exemple. On était une petite dizaine et on a pu, enfin, comme ça, rentrer dans cette communauté, tisser des liens, ce qui a été poursuivi pour nous cette année. On est retourné à Davos de manière digitale. C'est des relations économiques qui se sont intensifiées. C'est de l'aide dans l'administration.
C'est un peu la carte gold, c'est ça, de Bercy, que vous avez pendant un an?
Ça aide à la visibilité, à la communication, mais aussi à travailler avec l'administration française, à des sujets nous complexes dans l'industrie, dans les autorisations, avec les douanes, avec la Banque de France. Donc effectivement, on a eu pas mal comme ça d'entrer plus rapide dans des sujets qui peuvent être assez complexes, effectivement.
En coulisses, on est suivi par une personne de Bercy qui suit Open Classrooms directement, tant sur les enjeux, par exemple, d'achat public pour que la puissance publique, par exemple, fasse des achats de formation en tant qu'employeur, puisque l'État est employeur, évidemment.
Donc, il vous donne un coup de pouce.
Il nous donne un coup de pouce en tant que client potentiel. Hein. Après, il y a les marchés publics, etc. Oui. Mais disons qu'on a un accès privilégié à des interlocuteurs. Il nous aide aussi au niveau du rayonnement, de la visibilité. Je pense que ça crée une marque employeur aussi plus importante. On a des candidats qui nous en parlent dans les candidatures en disant j'aimerais travailler chez vous parce que vous êtes une entreprise à mission, ça a du sens, c'est l'éducation, mais aussi parce que vous êtes une des plus grandes entreprises de la technologie en France, vous êtes en croissance, donc tout ça attire forcément pour les candidats. Mais c'est vrai aussi côté client. Je disais côté client, pour les grandes entreprises notamment, ou pour l'État ou les acteurs publics de façon générale, c'est quelque chose de plus rassurant. On se dit, tiens, il y a une sorte de label qui rassure.
Et enfin, parmi les nouveaux entrants de ce Next 40, il y a Exotech. Exotech, on suit leur progression depuis très longtemps sur BFM Business. C'est une entreprise de la région lilloise qui produit des robots pour assurer la logistique dans les entrepôts des grands noms de la distribution. Un enjeu crucial de rapidité et de productivité au moment, bien sûr, où le e-commerce est en plein boom. Exotech, d'ici la fin de l'année, devrait avoir équipé une trentaine d'entrepôts géants dans le monde. En 2020, l'entreprise avait levé 90 millions d'euros et la belle aventure continue donc avec cette entrée dans le Next 40. Romain Moulin, le cofondateur d'Exotech, était au mois de février sur le plateau de Good Morning Business avec Sandra Gandouin et Christophe Jacubizine.
C'est une vraie reconnaissance pour nous d'être dans le Next 40 et c'est l'occasion pour Exotech d'appuyer vraiment son empreinte. Il faut savoir que maintenant l'entreprise a une empreinte internationale. On a vendu au Japon pour Uniqlo, on a vendu aux États-Unis, on est aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie.
En France, c'est Leclerc, Carrefour, Decathlon qui sont vos clients. Ils ont occupé leurs entrepôts de robots.
Oui, les grands noms cherchent à transformer leur supply chain avec des solutions plus performantes, plus agiles. Donc Exotech est arrivé à point nommé, on a développé notre solution au bon moment pour les aider à cette transformation.
Et vous avez ajouté à votre solution un bras, un robot baptisé Skypicker, comment ça fonctionne?
Donc le Skypicker, c'est la suite naturelle de notre système pour voir qu'Exotech a vraiment vocation à automatiser l'entrepôt d'un bout à l'autre, à le robotiser. Et donc le Skypicker, c'est un module qui prend les articles de manière automatique et qui évolue en collaboration avec les opérateurs. Donc notre logiciel synchronise les bras de picking automatique, les opérateurs, afin vraiment de réaliser la logistique des clients.
Et alors vous êtes rentré au Next 40, non pas parce que vous êtes une licorne, pas encore, on vous le souhaite bientôt, mais parce que vous avez fait une très très belle levée de fonds, notamment de 90 millions d'euros, puis que votre croissance est très forte.
Exotech a une croissance très forte, en effet, il y a deux ans on a fait 20 millions de chiffre d'affaires, là on fait 45 millions, et cette année on va faire 90 millions.
Et vous avez doublé le nombre de collaborateurs, vous êtes passé de 120 à 230, hein, c'est ça?
Tout à fait, et l'an prochain nous allons être 350.
Alors la feuille de route des prochains mois et des prochaines années, avec 90 millions de dollars, vous allez pouvoir un peu sans doute développer. C'est quoi? C'est le développement international? C'est le développement de nouvelles machines, de nouveaux robots?
Les deux sont sur notre feuille de route. Donc il y a une part le développement international. Nos marchés principaux, c'est les États-Unis. L'Allemagne est un gros marché aussi. Ouais. Le Japon. Donc on va vraiment asseoir notre empreinte sur ces marchés-là. Et l'autre branche, c'est le développement de nouveaux produits. Le Skypicker en était un. Mais il faut voir qu'un entrepôt, ça n'est rien de plus qu'une machine à processer des commandes pour les clients. Et à chaque fois qu'on les visite, on a plein de nouvelles idées. Donc d'un bout à l'autre, on va créer des produits robotiques qui permettront d'apporter beaucoup de performance aux entrepôts et en même temps beaucoup de flexibilité. C'est là qu'est toute la clé de nos technologies.
C'est la fin, voilà, de ce deuxième best-of de l'été de la France à tout pour réussir. La semaine prochaine, nous reviendrons sur les très belles, les plus belles, les plus grosses levées de fonds de ce premier semestre 2021. En 6 mois, donc en 2021, la French Tech a déjà levé presque autant que sur toute l'année 2020. Rendez-vous donc le week-end prochain. D'ici là, je vous souhaite un très bel été, un très bon mois d'août et donc à très vite, à très bientôt sur BFM Business.
BFM Business, la France a tout pour réussir.